Bonjour à tous. Je fais un petit peu de ménage. Je fais un petit peu de ménage d'abord. Comment ? La semaine dernière, j'ai prêché à la mission des sans-logis et j'ai prêché sur le fils prodigue. Et dans l'histoire du fils prodigue, il y a un peu une notion de pardon total, j'ai perdu le terme, de pardon sans réserve, voilà, de pardon sans réserve. Et aujourd'hui, j'ai choisi de faire un petit peu, bon, pas le contraire, mais de vous parler du péché qui est impardonnable. Donc le blasphème contre le Saint-Esprit. Je vous propose de commencer en lisant Matthieu 12, versets 31 et 32, et on lira quasiment tout le chapitre au fur et à mesure après. Donc Matthieu 12, versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Nous savons tous que Dieu, par nature, est une personne de miséricordieuse. Et le thème du pardon est traité dans l'Écriture du début jusqu'à la fin. Même quand Moïse est descendu du mont Sinaï avec les tables de la loi, Dieu, à ce moment-là, a souligné son désir de pardonner. C'est dans Exode 34, les versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » On pourrait dire que la loi de l'Ancien Testament et l'Évangile sont tous deux destinés, en fait, à nous enseigner le pardon. Alors, la loi va le faire en soulignant notre besoin de pardon, et l'Évangile, pour sa part, nous parle du pardon, en fait, par l'offrande même du pardon aux pécheurs qui ont reconnu en avoir besoin. Le pardon est donc une partie intégrante de ce qui définit le caractère moral de Dieu. Dieu, en fait, Dieu se plaît à pardonner. Quiconque se tourne vers lui dans une véritable attitude de repentance, même le pire des pécheurs obtient miséricorde, a droit au pardon. Mais il y a chez les hommes, donc chez nous, chez les incroyants, il y a une tendance pécheresse à douter que Dieu puisse pardonner. Et pour ma part, en fait, j'ai connu un pasteur, hein, c'est même le pasteur par qui je suis venu à l'Évangile, qui après des années de service, il est retombé dans le péché. Et quand on discutait avec lui, eh bien, il nous affirmait que Dieu ne pouvait plus le pardonner, qu'il ne pardonnerait jamais avec lui. Il pensait être monté si haut, je ne sais pas, dans la hiérarchie chrétienne, que par orgueil, il disait non, Dieu ne me pardonnera plus. Alors la question, c'est, y a-t-il un péché que Dieu ne puisse pardonner ? La gravité et le nombre des péchés peuvent-ils rendre quelqu'un impardonnable ? Je ne sais pas si vous avez essayé un jour d'imaginer quel serait le pire des péchés. Alors, moi j'ai pensé, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, que de dire Peut-être que le pire des péchés pour un chrétien, eh bien, ça serait de concevoir de tuer Jésus-Christ. Et j'ai du mal à imaginer quelque chose de plus grave que de tuer mon Seigneur. Et tuer Jésus, je ne sais pas si vous imaginez. Et bien sûr, enfin, malheureusement, c'est ce que les hommes, c'est ce que nous avons fait. Nous avons tué Jésus un jour. Nous avons tué le Fils de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez fait le parallèle, mais au moment où nous allions tuer Jésus-Christ, au moment où il était pendu en fait à la croix et qu'il agonisait, lui, il a prié. Il a prié pour tous ses bourreaux, pardon. C'est écrit dans Luc 23, les versets 33 et 34. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu es le Fils de Dieu et pardonnable, alors, c'est certainement pas par la valeur humaine du péché, par les valeurs humaines que l'on donne au péché, que le pardon va être impossible. Si Jésus demande le pardon pour ses bourreaux. Et on a vu la gravité, qu'en est-il maintenant de la quantité de péché? Est-ce que la quantité de péché peut faire que l'on devienne impardonnable? Quand quelqu'un, qu'il s'agisse d'un débauché de 70 ans, donc qui aurait vécu dans la débauche pendant toute sa vie, qui aurait vécu dans l'immoralité, ou quand un enfant passe son temps à être méchant, mais que cette personne, cette vieille personne ou cet enfant se tourne vers Dieu dans un esprit de confession, dans un esprit de repentance, eh bien, Dieu lui pardonne. On voit Jésus dans un dialogue avec Pierre qui vient lui demander « Seigneur, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Et Jésus lui répond « Je ne te dis… » Ah oui, mais Pierre dit « Jusqu'à 7 fois » et Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois ». Mais je te dis jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est Matthieu 18, les versets 21 et 22. Donc, la question est, finalement, est-ce qu'il y a une sorte de péché que Dieu ne peut pardonner? Alors, si vous survolez l'Écriture, vous verrez que la liste des péchés, au travers de nombreux passages, la liste des péchés que Dieu pardonne, on pourrait essayer de faire une liste, Elle est costaud la liste, hein, puisque idolâtrie, meurtre, gloutonnerie, fornication, adultère, tricherie, mensonge, homosexualité, blasphème, ivrognerie, extorsion, et j'en passe. Donc, j'aimerais aussi rajouter que il pardonne même à ceux qui rejettent Christ. S'il ne le faisait pas, eh bien, personne ne pourrait être sauvé. Chacun de nous, dans une certaine mesure, a rejeté Christ avant d'être sauvé. J'irais même jusqu'à dire, qui de nous n'a pas rejeté Christ au moins une fois après son premier chemin de repentance? Combien parmi nous, hein, je me mets dans le lot, combien parmi nous cette semaine ont-ils caché au moins une fois leur appartenance à Christ par peur des conséquences? Non, je suis au boulot, je me fais profil doux, je me réserve pour dehors. Mais... Qui de nous n'a jamais fait au moins une fois le parallèle entre sa vie, entre un événement de sa vie, son comportement et celui de Pierre qui affirmera par 3 fois qu'il ne connaît pas Jésus? Alors qu'à ce moment-là, le Seigneur est sur un chemin qui le conduit à la croix. Pierre, par son comportement de pécheur, n'a-t-il pas participé pour une part à l'assassinat du Fils de Dieu? Et pourtant, notre Dieu, dans son immense amour, l'a pardonné. Il l'a pardonné, il nous a pardonné parce que nous avons cru. Nous avons accepté son salut par la foi. Malheureusement, dans l'Écriture, il y a un groupe de personnes qui ont rejeté Christ. Et ces personnes ont alors découvert qu'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas. Ces personnes, donc j'ai nommé les pharisiens, se sont acharnés contre Jésus pendant tout son ministère en rejetant à la fois ses paroles et ses œuvres. Et ce rejet a eu comme résultat ces mots cinglants que nous avons lus tout à l'heure de notre Seigneur, « Tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. » Versets 31 et 32 de Matthieu 12. Alors, les questions importantes à se poser, c'est tout d'abord, qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? Et essayer de comprendre ce qui pourrait m'amener à pécher de la sorte. Alors, pour répondre à ces questions, je vous propose aujourd'hui au travers de Matthieu 12 et surtout de vous propose de revenir au contexte de Matthieu 12, hein, au contexte qui a amené Jésus à prononcer cette sentence, cette exception d'un péché impardonnable. Et ensuite, on verra ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, petite parenthèse, blasphème. Le blasphème, j'ai regardé dans le dictionnaire quand même ce que ça voulait dire. Et il est écrit que le blasphème est une parole ou un discours qui outrage la divinité, la religion, ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Le blasphème est à distinguer du sacrilège. Le blasphème consiste en parole, le sacrilège consiste en acte. Voilà ce que j'ai trouvé dans Larousse. Donc, on va regarder au travers du contexte comment les pharisiens en sont arrivés au rejet du Saint-Esprit. Alors, on va faire une longue lecture dans Matthieu 12, les versets 1 à 23. J'ai oublié de vous prévenir, je vais être un petit peu long aujourd'hui. J'ai mesuré 34 minutes et 57 secondes. Merci. En ce temps-là, donc Matthieu 12, versets 1 à 23, « En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais il leur dit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Comment il entra dans la maison de Dieu et comment ils mangèrent les pains offerts alors qu'il n'était pas permis d'en manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls. Ou encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres profanent le sabbat dans le temple pour se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice. Vous n'auriez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Il partit de là et se rendit à leur synagogue. Il se trouvait là un homme qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison un jour de sabbat ?» C'était afin de l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous s'il n'a qu'un seul mouton et que celui-ci tombe dans une fosse un jour de sabbat, ne le saisira pour l'en retirer. Or, un être humain vaut plus qu'un mouton, combien plus? Ainsi, il est permis de faire du bien un jour de sabbat. Alors il dit à l'homme, tends ta main. Il la tendit et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et tinrent conseil contre lui sur les moyens de le faire disparaître. Mais Jésus l'a pris et se retira de là. De grandes foules de gens le suivirent. Il les guérit tous, en les rabrouant pour qu'ils ne parlent pas de lui, afin que s'accomplisse ce qu'avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. « Voici mon serviteur, celui que j'ai choisi, mon bien-aimé, celui en qui j'ai pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne cherchera pas la dispute, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les grandes rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait porté la justice à la victoire. Et les nations mettront leur espérance en son nom. » Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toutes les foules, stupéfaites, disaient, « N'est-ce pas là le fils de David ? N'est-ce pas là le fils de David ?» Donc voilà le contexte du chapitre 12, un contexte d'enseignement, de révélation par rapport à l'Écriture, un contexte de miracle, un contexte aussi de démonstration de la puissance de Jésus, mais aussi un contexte chargé de tension, d'hostilité avec la présence des pharisiens. Au verset 22, il est écrit « On lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet voyait et parlait. » Le ministère de Christ est rempli d'événements semblables. Le peuple, mais également les chefs religieux, avaient été témoins de nombreuses guérisons instantanées, de guérisons parfaites et incontestables. Guérisons, soi-disant passant, toujours accomplies par le Seigneur sous l'autorité de Dieu. La source, donc, de son pouvoir surnaturel ne devait plus être un secret pour les foules et en particulier pour les chefs religieux. Alors la plupart des gens étaient peut-être quand même incertains sur l'identité de Jésus, c'est qui ? On comprend qu'il vient de Dieu, mais c'est qui ? Mais vraiment, les scribes et les pharisiens, à mon sens, ils étaient dans un état d'esprit totalement différent, parce que eux, ils avaient vraiment la connaissance profonde des Écritures. Et il n'était certainement plus sceptique sur l'identité de cet homme qui accomplissait tant de prodiges. Et il voyait Jésus accomplir en fait l'Écriture divine et ils en étaient remplis de haine. Ils étaient remplis de haine, de jalousie envers Jésus parce qu'ils le considéraient comme un danger pour leur pouvoir. Et on le voit vraiment, ils étaient devenus complètement hostiles à son égard. Et il est raisonnable de penser que Jésus n'a pas choisi au hasard ce moment pour accomplir cette guérison particulière. Parce que dans ce contexte du chapitre 12, je pense que Jésus devait vraiment être sûr que la foule le reconnaîtrait et il devait aussi être sûr que cela amènerait une réaction des pharisiens et que ça les obligerait à se démasquer, à se dévoiler, ça les obligerait à montrer en fait leur hostilité. Et cet homme qui était possédé du démon, qui était aveugle, incapable de parler, a soudainement et miraculeusement commencé à voir et à parler. Et on le voit, il l'a fait d'une façon telle que la parole nous dit, en parlant de Jésus, la foule stupéfaite disait « N'est-ce point là le fils de David ?» La foule dit « N'est-ce point là le fils de David ?» C'est au verset 23. Et donc, on peut penser que ce miracle, il a été particulièrement, je le dis entre guillemets, soigné par Jésus-Christ. pour qu'il ait un impact fort, hein, puisqu'il a étonné toute la foule, il nous est dit dans la parole. Et le verbe qui est, j'ai lu que le verbe qui est grec, qui est utilisé normalement, indique que les gens étaient totalement abasourdis, remplis de stupéfaction et d'émerveillement. Donc, miracle tout particulièrement soigné par Jésus pour déclencher, pour que ça ait un impact et pour déclencher cette réaction. N'est-ce point là le fils de David? Et la réaction démontre qu'il reconnaissait en fait ce miracle comme une révélation. Ils attendaient peut-être à cette époque tout particulièrement le retour de, enfin, la venue du Messie, parce que c'était une période d'occupation, d'oppression romaine. Et certainement que la foule se pose la question, n'est-ce point là le fils de David? Ce miracle n'est-il pas un signe messianique? Moi, je pense vraiment que c'était la pensée de la foule. Et dans l'Écriture, l'expression « fils de David » est toujours un des nombreux titres qui désigne le Messie, qui désigne aussi son royaume éternel. On le voit dans 2 Samuel 7, versets 12 à 16. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, j'affermirai son règne. Pardon. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal, pour toujours. Moi, je serai son père et lui, il sera mon fils. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. » Et puis, un peu plus loin, Ésaïe 9, versets 6 et 7, tout le monde le connaît. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Donc, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un fils nous est donné pour renforcer la souveraineté et pour donner une paix, sans fin au trône de David, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Donc, mes amis, c'est cette foule attendait le Messie. Et elle a su, peut-être pas tout le monde, mais pour une partie, puisqu'ils vont crier, n'est-ce point là le fils de David, elle a su, pour une partie, reconnaître Jésus, reconnaître le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La suite de l'évangile nous montre qu'ils n'avaient peut-être pas encore tout compris. Et la question que je me suis posée, qu'en est-il, moi, de ma compréhension? Qu'en est-il de nous? N'attendons-nous pas, nous aussi, à notre tour, un événement exceptionnel? N'attendons-nous pas aussi le retour de Christ? Et comme cette foule, comme ces pharisiens, n'avons-nous pas aussi reçu des enseignements, des signes de son retour? La question qui se pose ce matin, c'est de quel côté sommes-nous? Sommes-nous du côté de la foule ou sommes-nous du côté des scribes et des pharisiens? Es-tu de ceux qui crient « N'est-ce point là le fils de David ?» Donc de ceux qui adorent en esprit, en vérité. Es-tu un disciple du Seigneur? Ou à l'inverse, es-tu de ceux qui refusent, qui rejettent sciemment Jésus? De ceux même qui critiquent, les disciples comme les pharisiens, on l'a vu dans ce chapitre, verset 2. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Sommes-nous sûrs d'attendre correctement le retour du fils de David? Nous allons voir maintenant les vraies raisons du rejet. Alors, on en revient à notre scène qui est minutieusement préparée par Jésus. Et je l'ai déjà dit, le fait que Jésus soit reconnu par la foule gêne terriblement les scribes et les pharisiens. Cela risque de nuire à leurs affaires. Et donc, ils doivent riposter au plus vite pour essayer de décrédibiliser Jésus devant la foule. Il faut, quelque part, on dirait, il faut sauver les apparences. Mais dans leur précipitation à contrer en fait cette réaction, les pharisiens vont tomber dans le piège qui est tendu par Jésus. Donc Matthieu 12, verset 24, « Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Donc les pharisiens accusent Jésus de chasser les démons par Belzébul. Les pharisiens utilisent cette contre-attaque donc pour affirmer que Jésus n'est pas le Messie et qu'il est même l'antithèse du fils de David. Ils disent qu'il est le serviteur de Belzébul et même ils disent le prince des démons. Donc Belzébul, c'est Satan. Certaines personnes pouvaient se poser la question d'où vient la force surnaturelle de Jésus. Et les pharisiens, donc, pour leur contre-attaque, ont choisi d'utiliser ce dilemme pour essayer de reprendre le dessus. La puissance de Jésus était visiblement surnaturelle. Et elle ne pouvait venir que de deux sources. Soit elle venait de Dieu, soit elle venait de Satan. Et puisque les pharisiens avaient déjà refusé de reconnaître que Jésus venait de Dieu, ils étaient donc obligés d'affirmer qu'il était un agent de Satan, voire Satan lui-même. Et pendant que les pharisiens, bon, moi j'ai essayé de m'imaginer la scène, et essayent certainement de se balader dans la foule pour dire qu'il agit par Satan, eh bien, Jésus est pleinement conscient de leur stratégie et il va réfuter leur accusation et point par point. Il va démonter cette accusation point par point. Et tout d'abord, il s'attaque à l'absurdité logique de cette accusation. Versets 25 et 26, toujours Matthieu 12. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. On le voit aujourd'hui quand il y a des conflits à l'intérieur même d'un pays, il ne fait pas bon y vivre. Et donc ce que veut dire, il continue, il dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Jésus explique en fait que s'il était Belzébul ou Satan, il n'aurait aucun intérêt à chasser les démons. Satan est de trop loin astucieux pour donner ordre à ses laquais de se battre les uns contre les autres et ainsi de détruire l'œuvre qu'il veut accomplir sur la terre et sur les hommes. Deuxième point, les préjugés de l'accusation. Jésus dévoile donc ensuite la corruption et les mauvais penchants du cœur des pharisiens. Il dit, « Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Verset 27. Alors le mot « fils » était souvent utilisé à l'époque pour qualifier des disciples ou des adeptes. Dont on voit dans Deux Rois, il est souvent parlé des « fils des prophètes ». On comprend donc dans les paroles de Jésus que les disciples des pharisiens chassent les démons et que les pharisiens n'ont rien contre. Sachant que les pharisiens sont censés être du côté de Dieu, comment peuvent-ils, sans aucun préjugé vis-à-vis de Jésus, approuver les exorcismes, accomplis par leurs disciples et en même temps proclamer que les guérisons accomplies par Jésus sont l'œuvre du diable. L'accusation ne tient pas, elle n'est pas cohérente. Et souvent, une des raisons fondamentales pour laquelle les gens rejettent Christ, ce n'est pas à cause d'un manque de preuves, mais c'est souvent à cause de leur penchant personnel, de leurs intérêts personnels. Et c'est le cas avec les pharisiens. Si Jésus institue un nouveau règne, eux, ils perdent leur pouvoir un petit peu sur terre. Ceux qui trempent dans les œuvres mauvaises évitent à tout prix de s'exposer à la justice de Christ. Et les pharisiens dans notre histoire représentent tous les enfants des ténèbres qui ne peuvent ni ne veulent supporter la lumière. Dans Jean 3, verset 19, il est écrit « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ils cherchent plutôt les pharisiens donc cherchent plutôt des moyens de justifier leurs œuvres mauvaises et de détruire quiconque ose les dénoncer. L'accusateur, refusant de croire en Jésus, la parole va nous expliquer que, en fait, les pharisiens, je suis né à Paris. La parole nous explique que les pharisiens sont condamnés car ils refusent la lumière. Vous connaissez tous par cœur Jean 3, 16, mais est-ce que vous connaissez Jean 3, verset 18? Jérémie l'a lu tout à l'heure. Celui qui croit au Fils n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, Jésus n'avait-il pas raison de relever cette incohérence dans l'accusation? En gros, il dit, vous approuvez les exorcismes de vos disciples, mais moi, vous m'accusez de le faire par Satan? J'espère que, personnellement, que dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas les mêmes préjugés que les pharisiens. Alors je pense, pour ma part en particulier, aux fois où je vais parler peut-être négativement d'autres églises ou d'autres personnes, de ce qu'elles font, suis-je toujours cohérent dans mes discours? Tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Dernier point, avant d'en venir au blasphème contre le Saint-Esprit, Jésus démontre un esprit de rébellion dans l'accusation. Donc, la troisième raison derrière l'accusation des pharisiens était la rébellion contre Dieu. Jésus le démontre ainsi. Versets 28 à 30. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir avant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. La seule possibilité donc qui reste, c'est que Jésus avait accompli ses miracles par la puissance de Dieu, et ainsi il devait être le Messie. Et tout juif qui connaît les Écritures savait que tous les miracles accomplis par Jésus avaient été annoncés comme devant accompagner le Messie. Ésaïe 29, verset 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivré de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Vous pouvez lire aussi Ésaïe 35, versets 4 à 6, qui vraiment mettent en parallèle l'arrivée du Messie avec des miracles. Et nous l'avons lu un peu auparavant, puisque le Messie, le règne, devait être éternel, comme c'est écrit dans de nombreuses prophéties. La conclusion logique est que le royaume, donc, qui là est représenté par Christ, par son règne en tout lieu, en tout temps, eh bien, le royaume, il était là, devant les pharisiens. Le royaume, il était venu jusque sur la terre en la personne de Christ. La preuve, donc, de la revendication de Christ est dans tous les miracles qu'il accomplissait en phase avec l'Écriture. Jésus, toujours pour démontrer cet esprit de rébellion, il va décrire la relation des pharisiens envers lui. Verset 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Et donc, si les pharisiens n'étaient pas pour lui, ils étaient contre lui. C'est les deux relations qui sont possibles. Il ne peut pas y avoir de neutralité, c'est ce que nous dit Jésus. L'accusation des pharisiens ne fait que démontrer leur état d'esprit de rébellion et leur statut d'ennemi de Dieu. Donc, voici en quelques points, je dirais, le contexte qui aboutit en fait au verset 31 et 32, où Jésus va condamner le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, dernière partie, le péché impardonnable. Donc, jusqu'où les hommes peuvent aller dans le péché et perdre la possibilité d'être sauvés? C'est la base de ce que Jésus dit ensuite aux pharisiens. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc le péché apparaît là, le blasphème, pardon, apparaît là comme un péché, mais une sorte de péché, mais Jésus le met à part. Ce n'est pas un péché classique. Et il souligne donc que c'est la forme de péché la pire, la plus extrême. Donc, généralement, Jésus utilise le mot péché pour toute action, toute pensée impie, on pourrait dire toute pensée contraire à la loi, toute action contraire à la loi. Il va utiliser le mot blasphème pour désigner toute condamnation et tout rejet volontaire, conscient de Dieu. Ceux qui blasphèment contre Dieu, ce sont ceux qui sont coupables de diffamation, de moquerie contre lui. Dans Lévitique, chapitre 24, au verset 16, la sanction pour cela, c'est la mort. Donc c'était Lévitique 24, 16, je vous laisse le lire à la maison. Mais on le voit, Jésus dit que Dieu pardonne même le blasphème s'il y a repentance. Paul a bénéficié de ce pardon. Dans 1 Timothée, chapitre 1, les versets 13 et 14, Paul dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Même, on le voit, le blasphème contre Jésus sera pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Et si les gens se méprennent et pêchent contre lui, sans avoir été confronté à sa vérité, sans avoir été confronté à la preuve de sa divinité, eh bien, le pardon est encore possible. S'il croit ensuite, après avoir reçu une totale connaissance. Et c'est ce que Paul dit, « J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Mais Dieu ne pardonne pas le blasphème contre le Saint-Esprit, parce que le blasphème contre le Saint-Esprit, ça va être un rejet délibéré de Christ dans la pleine lumière, si je peux dire, du témoignage du Saint-Esprit. Quand quelqu'un comme un de nos pharisiens a été exposé à Jésus, quand il a été exposé à la preuve qui atteste la source de toutes ses paroles, qui atteste toutes ses œuvres, et que ce quelqu'un continue à rejeter Jésus comme son Messie, il rend alors son pardon impossible parce qu'il ne croit pas, parce qu'il est ancré fermement dans son incrédulité. Et il est pour nous, je ne sais pas si vous y avez pensé, pour moi c'est inconcevable que quelqu'un qui a vraiment eu la révélation de Dieu, la révélation de Jésus, qui a accepté, qui a cru à son pardon, qu'il s'éloigne de Christ, on le voit, on le comprend, mais qu'il se mette à blasphémer contre Christ, j'ai pas vu encore. Ça me semble inconcevable, mais pourtant. Et ceux qui refusent de croire donc volontairement en Christ perdent à jamais la possibilité d'être pardonnés. Et la parole nous dit que ce soit dans ce siècle ou dans le siècle à venir. Matthieu 12, 32, et dans ce verset, l'expression « ce siècle » désigne en fait toute l'histoire humaine, et le siècle à venir, c'est toute l'éternité. Le pardon est à jamais inaccessible pour ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et les gens visés dans notre passage ont entendu Jésus enseigner. Ils l'ont entendu prêcher la vérité de Dieu. Ils l'ont entendu, ils l'ont vu faire les miracles annoncés par leur Père. Donc ils ont vu tout ça, ils ont été enseignés, certainement les pharisiens depuis leur plus tendre enfance. Combien de séances d'école du dimanche, combien de groupes de jeunes, combien d'études bibliques peut-être pour ces pharisiens. Et néanmoins, ils ont refusé de croire. Ils ont vu la puissance du Saint-Esprit. Ils l'ont vu œuvrer en Jésus. Ils ont vu cette puissance guérir les maladies, chasser les démons, pardonner tout péché. Mais ces personnes de notre texte, ils ont accusé Jésus de tromperie, ils l'ont accusé de mensonge. Et ils l'ont même accusé d'être un démon en attribuant ses pouvoirs à Satan. Et Dieu, dans ce cas-là, il ne peut rien faire pour eux. Dieu ne peut rien faire pour ceux qui vont rejeter sa divinité, la divinité de Christ, de cette façon, et surtout devant des preuves si écrasantes. Donc, on le voit durant le ministère de Jésus, les pharisiens et tous ceux qui ont ainsi blasphémé contre l'Esprit, eh bien, ils se sont coupés de la miséricorde de Dieu. Dieu leur avait offert la miséricorde en Christ, mais ils l'ont rejeté, ils l'ont tourné en dérision, en le comparant à Satan, on a vu. Pour finir, deux avertissements de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Deux avertissements à ceux qui vont se comporter, qui vont marcher sur les traces des pharisiens. deux avertissements à ceux qui rejettent Christ malgré la révélation qu'ils auraient reçue. Hébreux 2, versets 3 et 4. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Hébreux 6, versets 4 à 6, deuxième avertissement, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Je vois qu'il est 11h47. Je vais m'arrêter là. Juste pour finir, une anecdote que j'ai lue, c'est pendant la guerre mondiale, il y avait un combat naval dans l'Atlantique Nord. Et pour des besoins de sécurité, un porte-avions a coupé ses moteurs, a coupé toutes les lumières pour être discret. Mais malheureusement, il restait quelques avions dans le ciel qui devaient atterrir et ils n'ont pas eu la possibilité d'atterrir. Cela leur a été refusé. Donc ils n'avaient pas de lumière pour atterrir. Et finalement, quand ils n'ont plus de kérosène, eh bien, ils sont tombés dans l'océan glacé. Ils sont tous morts et la leçon qu'il faut tirer de ça, c'est que Dieu, lui aussi, des fois, il atteint un moment où il va éteindre les lumières et donc il va couper la possibilité d'être sauvé. Celui qui va rejeter la lumière du salut n'aura plus de lumière à ce moment-là et il restera dans les ténèbres. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous instruit. Et Seigneur, nous voulons simplement te demander de nous équiper, Seigneur, de nous aider à ne jamais tomber dans ce péché qui est impardonnable. Seigneur, que nous puissions être des disciples fidèles pendant tout notre passage sur terre. Que ton nom soit béni. Amen.
Si tu fumeras.